C'est un drôle de sentiment, hein, la culpabilité, on dit que ça vous ronge, que c'est un poids dont on ne parvient pas à se débarrasser parce que ça vous fait avancer, vous comprenez, comme Sisyphe qui ne cesse jamais de pousser son rocher, même s'il doit toujours recommencer, bah, il avance, hein, il le pousse son rocher. La culpabilité, comme le montre avec beaucoup de clarté la philosophe Elsa Godard dans son dernier livre, ça va de pair avec la morale et les lois d'une société, avec des injonctions qu'on a maquillées en responsabilité, avec des choix qui n'en sont pas, entre la peste et le choléra, mais qu'il faut faire à tout prix, sous peine de tout dérégler. Aujourd'hui, plus que jamais, faut être politisé, parce que sinon c'est irresponsable, vous comprenez, tu viendras pas pleurer. Faut être conscient en termes d'environnement, tout le temps, faut être un bon parent, faut être performant, faut être positif, enfin dans certains cas, faut plutôt être négatif en ce moment, faut être en bonne santé, ou alors c'est qu'on s'est pas assez protégé, et il y a sans doute des proches qu'on a contaminés, et si on est dans le métier, il y en a certains qu'on aurait pu mieux soigner, c'est épuisant, mais on se sent coupable aussi quand on est fatigué, qu'on soit en galère, ou qu'on soit privilégié, c'est un sentiment qu'on a tous intégré dans un monde qui nous dit sans cesse comment on doit se comporter, c'est ce sentiment qui est censé nous faire avancer et nous augmenter sur le papier, mais qui nous empêche, ce sentiment auquel on se soumet tout le temps. En responsabilité.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Boomerang. De quoi mon invitée se sent-elle coupable? Cinéaste. Elle est aussi comédienne et continue de surprendre rôle après rôle par l'intensité de ses performances. Ce soir, elle sera au théâtre de la ville pour Royan, la professeure de français. Une pièce que lui a écrite Marine Diaye, mise en scène par son fils, Frédéric Bélier-Garcia. C'est le monologue incandescent d'une enseignante dévorée par le déni et par une culpabilité qui ne dit pas son nom. Bonjour Nicole Garcia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, quel sentiment est-ce que c'est pour vous la culpabilité, justement ?
La culpabilité, la mienne, celle du personnage ? Non, la mienne. Question très personnelle. Je sais ce que c'est, en tout cas. Je sais ce que c'est. Je connais des amis, par exemple, qui en sont assez libérés. Et peut-être les personnes que j'envie le plus. Mais moi, je peux très vite, me sentir dans cette culpabilité pour ce que j'ai pas fait, pour des regrets par rapport aux autres, par rapport à. Et je crois que ça vient. Oui, on le dit. Bon, encore l'enfance, toujours l'enfance. Mais on s'est mis dans une situation où. Si on n'a pas été assez regardé, assez aimé, souvent les enfants, paraît-il, disent voilà, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose. Et je crois qu'on traîne ça parce que de vraies fautes, on n'a pas faites, on a sûrement manqué à des choses comme. Et c'est vrai que la pièce de Marine Diaye, puisqu'on parle de ça, la fille qui veut éviter son propre problème.
La pièce de Marine Diaye, effectivement, dans cette pièce, la culpabilité est très présente. Vous jouez le rôle d'une enseignante dont l'une des élèves s'est suicidée et dont elle imagine que les parents l'attendent devant chez elle pour lui demander des explications, pour lui demander des comptes. Et elle veut pas entendre ce qu'ils ont à lui dire, parce qu'elle refuse qu'on la renvoie à ce sentiment de culpabilité dont elle se défend tout en l'éprouvant. Mais ce qui m'intéresse dans votre réponse, Nicole Garcia, c'est qu'est-ce que vous mettez de vous, en fait, quand vous jouez un personnage ?
Je mets tout. Je mets tout. Je tranche pas, quoi. Je joue avec tout ce qu'il y a en moi, de tout ce que m'évoque ce texte, et particulièrement dans ce texte qu'a écrit pour ma Marine Diaye, il y a quelque chose qui. Frédéric Bélier-Garcia a dit un truc très juste sur l'analyse de Marine Diaye, c'est qu'il y a des choses qu'on peut analyser, et il y a aussi quelque chose qu'il faut, une part qu'il faut laisser en paix, comme un astrophysique, quoi, quelque chose, une masse qu'on ne peut pas analyser, une masse noire. Et je tourne autour en le jouant, parce qu'il me semble que dans cette masse, il y a toute la brutalité, la haine, la sauvagerie qu'on est obligé de cadenasser en soi pour arriver à vivre. Oui. Avec les autres. Mais ce que vous dites est très juste sur la culpabilité, parce que c'est vrai que c'est une pièce qui commence comme une sorte de beaucoup de pièces de Marine Diaye confinent aux faits divers, et celle-là elle commence comme une garde à vue, c'est vrai. Elle rentre et on lui reproche quelque chose et elle dit j'ai rien à voir avec tout ça, foutez-moi la paix. Et peu à peu elle va passer, comme cette garde à vue est efficace, elle va passer du déni à l'aveu.
Mais dites-moi, dans la mesure où Marine Diaye l'a écrite pour vous, cette pièce, c'est un drôle de miroir quand même. C'est un miroir qui nous ramène à nos peurs les plus profondes, je suppose, pour vous.
Mais oui, c'est vrai, oui, Augustin. Non, les peurs les plus profondes, mais à partir du moment où elles sont comme ça sublimées, transfigurées par le théâtre, peut-être c'est une manière de les vivre sans qu'elles vous dévorent. Mais il y a un double miroir. Il y a le miroir de Marine Diaye qui écrit ça, puis il y a ce professeur, et dont le miroir a été cette élève, cette adolescente aux dreadlocks, qui est arrivée dans sa classe, et qui était si sauvage, et qui a été un tel miroir pour cette prof, qui a tellement peur de sa propre sauvagerie, qu'elle confine à la folie, qu'elle n'a pas porté à six sens à cet élève, et c'est le crime qu'on lui reproche.
Et puis il y a le miroir de vous-même, Nicole Garcia. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la vie?
Mais tellement de choses.
Et d'où elle vient, cette peur?
La peur, c'est vrai. J'avais un ami autrefois, enfin, je me suis un peu. J'ai un peu progressé, qui me disait parfois: Est-ce que tu pourrais commencer par tes phrases par autre chose que par j'ai peur? Donc, je pense que mes peurs sont multiples. Et à quoi quelle référence à cette peur? Non, ce que vous disiez peut-être plus tranquillement que la peur, une inquiétude, quoi. J'arrive pas bien à me débarrasser du. Je ne suis pas très tranquille, je suis pas quelqu'un de tranquille. J'aimerais bien y arriver, mais si vous avez... J'aimerais bien arriver à plus de tranquillité.
Et qu'est-ce qu'elle devient, cette intranquillité, lorsque vous êtes sur scène, cette inquiétude, une fois que vous vous fondez dans le personnage?
Ah ben là, elle disparaît, c'est ça qui est formidable. Enfin, formidable, c'est pas une panacée, ni... Mais ça, c'est différent. Disons, l'intranquillité, je la connais dans la vie. Après, quand on crée, que ce soit au cinéma ou au théâtre, là, ben non, je suis là pour jouer, pour raconter cette peur, pour raconter ce personnage. Et justement, là, c'est la première fois que je suis effectivement seule en scène. Mais j'ai comme partenaire le public beaucoup plus sûrement que je ne l'ai quand je joue en troupe, quoi, parce que je les entends, j'entends leur silence, j'entends le suspens dans lequel ils écoutent ce spectacle, qui est, comme vous dites, quelque chose où on sent une menace, il y a quelque chose qui... Et donc, là, peut-être que toutes mes inquiétudes ne sont plus que portées que sur la performance.
Mais alors, jouer un rôle, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est?
Jouer un rôle, c'est arriver à faire partager, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, à faire partager, à toucher avec l'univers, le texte d'un auteur, à faire partager une problématique, quelque chose qui nous appartient à tous, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le texte de Marine Diaye dans Royan, c'est que c'est pourtant quelque chose elle est scandaleuse, elle est dérangeante, et pourtant il y a quelque chose qui partage son émotion, et même si c'est une chose terrible, et que les gens ressentent ces contradictions, ces ambivalences que nous avons tous en nous, et qu'ils reconnaissent comme les leurs. Sinon, l'émotion ne pourrait pas arriver. C'est les conditions de l'émotion.
Ah, c'est passionnant. Ça veut dire que ce que vous dites en creux, c'est que dans la vie aussi, on joue des rôles. Quel rôle est-ce qui vous est arrivé de jouer, vous, dans votre vie, Nicole Garcia?
Vous me laissez pas... Le père...
Je vous laisserai pas
quel
tranquille
rôle,
avec vous.
Quel rôle
portrait, hein.
Ben oui, ben oui. Mais quel rôle j'ai joué dans la vie? On joue des rôles souvent. On joue des rôles de manière alternative. Est-ce que les moments où on est vraiment très sincère, très à nu, sont plus importants que les moments où on est déguisé? En tout cas, je pense pas que ce soit les acteurs et les actrices qui soient le plus déguisés dans la vie. Parce que peut-être ils ont un exutoire ailleurs. Et la jouissance dans la vie, c'est de ne pas être déguisé, comme je le suis devant vous ce matin.
Vous savez, je vous pose aussi la question, est-ce que votre personnage, il avoue, dès son arrivée en France, après avoir quitté Oran, avoir cherché à jouer un rôle, en se conformant à ce qu'on pouvait attendre d'elle en tant que femme, pour mieux s'intégrer, se fondre dans la masse, se soustraire à d'éventuelles critiques, moqueries ou humiliations, pour pas être victime du regard des autres? Je me demandais, le regard des autres, qui est central dans cette pièce, qui a été écrite pour vous, Nicole Garcia, qu'est-ce que ça représente, le regard des autres?
Le regard des autres, je pense qu'on devient un jour un artiste, ou en tout cas un acteur, ou les deux ensemble, pour aller chercher ce regard.
C'est vrai.
Et après, ce regard peut être effectivement prisonnier. Mais d'abord, on le cherche, peut-être comme un regard qui vous a manqué, et qu'on est allé chercher à toute force, quoi. Si on ne l'a pas eu avant, il faut l'avoir après. Et donc, mais après, effectivement, il y a ça peut se retourner contre vous, et on devient trop dépendante de lui, trop prisonnière de lui, ne plus savoir exister si on ne séduit pas, si on n'est pas, c'est ce jeu-là entre le regard qui va vous faire vivre et celui qui va vous enfermer.
C'est qu'il y en a une qui ne souffre pas du tout. Tu regardes les autres dans cette émission, vous la connaissez, Nicole, c'est la culture. C'est une actualité qui n'en a plus rien à faire de rien, qui a complètement décidé de lâcher les chiens. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 17 janvier?
Qui êtes-vous?
Jean-Baptiste Poquelin, dis-moi hier.
Il est partout et il crée même encore des moments de télé, figurez-vous, parlez-en à Francis Huster, de Versailles à Moulins, de la BNF à l'Opéra, en librairie ou au cinéma, la France entière célèbre depuis ce week-end les 400 ans de Molière. Parmi les nombreuses festivités qui se déploieront jusqu'à l'été, la Comédie Française à Paris jouera exclusivement ses pièces jusqu'en juillet. Versailles accueille la Grande Expo, la Fabrique d'une Gloire Nationale jusqu'en avril et inaugurera en mai une statue du dramaturge signée Xavier Veillant, tandis que les éditions Gallimard proposent un nouveau coffret en Pléiade de ses œuvres complètes, ça pète.
Pour prouver aux gens qu'il y a une collage entre la mode et la réalité des gens, et pas tout simplement une espèce de recherche de spectacle.
Le créateur italien Nino Cerruti, créateur de la marque qui porte son nom, est mort samedi à l'âge de 91 ans, maître du chic décontracté, inventeur de la première veste fluide. Il avait imposé à la mode masculine des années 70 un style tout en raffinement léger, souple, aérien, pionnier de la fluidité des silhouettes. Il restera associé à certaines icônes du 7e art qu'il avait habillées, comme Belmondo dans Borsalino, Kathleen Turner dans Le Diamant du Nil ou encore Richard Gere dans Pretty Woman. Avoir du style, disait-il, c'est mélanger culture et art. On remet le son, Nicole. L'UNESCO inaugure la Semaine du Son, une manifestation déployée dans toute la France et dans plusieurs villes du monde, avec pour mission de sensibiliser le public et les élus aux enjeux sociétaux du sonore. Parrainée par Roberto Alagna, cette 19e édition verra notamment le ténor donner un récital dans les locaux de l'UNESCO ce soir en ouverture des festivités. Dans le reste du programme, des spectacles, des tables rondes, des rencontres, des sessions d'écoute collective, en tout près de 150 événements, c'est grand.
Le jeune sur son application pour avoir là où il est toutes les propositions qui seront possibles dans son environnement.
Enfin, c'est officiel, l'application du fameux Pass Culture a dépassé le cap symbolique du million d'utilisateurs, lancée en mai 2021 pour permettre aux jeunes de 18 ans de bénéficier d'une somme de 300 euros à dépenser dans la culture et les arts. Le dispositif vient d'être étendu aux mineurs de 15 à 17 ans. Et bonne nouvelle, parmi les offres culturelles les plus plébiscitées par les jeunes, c'est le livre, notamment le manga, qui arrive largement en tête des choix, suivi par les abonnements aux plateformes de musique, les achats de CD, de places de concert et de tickets de cinéma. Allez là. Nicole Garcia, invitée de Boomerang ce matin pour cette pièce, Royan, la professeure de français de Marine Diaye, ce soir jusqu'au 3 février au Théâtre de la Ville à Paris, après Avignon et après une tournée. C'est l'histoire, je le disais, d'une femme dont la vie a été jalonnée de départ, sans retour, celui de Marseille pour Royan et avant celui-ci, d'Oran pour Marseille. Nicole Garcia, quand est-ce que vous avez quitté Oran, vous?
J'ai été au rang en 62. Au moment, c'est la grande histoire qui nous a, voilà, qui pour moi précédait un peu, enfin, servait presque un peu mon désir de partir. Et donc, je suis parti sans tristesse. Et c'est les autres, les anciens, mes ascendants qui ont eu du chagrin.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette ville où vous avez quand même passé plus de 15 ans?
Un souvenir. Quand on a vécu près de la Méditerranée, dans le soleil de la Méditerranée et près de la mer, on est tous marqués par ça, par cette végétation, par ce climat. La ville après, c'est devenu plus compliqué parce qu'il y avait dès que j'étais adolescente, voilà, la politique, les complications, les différences de point de vue entre moi qui était une collégienne qui pensait certaines choses, mes parents qui en pensaient d'autres. Tout ça, c'est devenu plus douloureux. Voilà, c'est ce que je. Et puis Oran maintenant est devenu, j'y suis retourné quand j'ai tourné Un balcon sur la mer, c'est devenu une ville un peu plus crépusculaire et j'y pense souvent, j'y pense souvent, j'y pense pas tous les jours et c'est très étrange pour moi de dire Oran si souvent en scène du fait que Marine Diaye ait mis le nom d'Oran et pris ces détails biographiques de ma vie d'Oran et de l'exil et de ma blonde, enfin... pour raconter ce personnage.
Quand vous êtes installée en France, Nicole Garcia, quel choc est-ce que ça a été pour l'adolescente que vous étiez? Comment ça s'est passé?
J'ai pas eu de choc. Je suis allée passer mon bac à Montpellier, et puis après, j'avais, depuis l'âge de 13 ans, l'idée de rentrer, d'être actrice, de rentrer au Conservatoire de Paris. C'était, et donc, je n'ai pensé qu'à ça jusqu'au jour où j'ai été reçue au Conservatoire.
Alors, il
faut. Donc, c'était comme, cette volonté farouche que j'avais m'a protégée de tous les bouleversements, voilà.
Alors, il faut raconter, parce que ce désir de théâtre, il est né aussi d'une rencontre avec un professeur. C'est ça?
Oui.
C'était qui?
Ah, c'était Monique Rivet. Elle était professeure de lettres, un peu comme moi sur la scène le soir. Professeure de lettres quand j'étais en troisième. Et c'est autour d'elle que s'est cristallisé mon désir de théâtre. Je sais plus si c'est avant ou après, mais en tout cas, elle parlait de Gérard Philippe, elle parlait de Villard, et elle proposait une féminité qui était très loin des femmes qui m'entouraient en Algérie. Elle marchait vite en talons plats. Elle était, j'étais amoureuse d'elle, je crois. Et donc, j'étais venue lui dire, je vous l'avais dit, ça, je ne sais pas, j'étais venue lui dire, après le cours, je cherchais tout le temps des occasions de lui parler que je voulais être actrice et passer le conservatoire. Elle a eu peur d'un coup de l'influence qu'elle pouvait avoir sur moi, et elle m'a dit, mais c'est très difficile, le conservatoire. Elle avait reculé là-dessus, et puis, et je pensais l'avoir oublié quand j'ai vu mon nom, comme dans les reçus du conservatoire, j'avais pensé à elle.
Mais qu'est-ce qui vous attirait tant dans ce métier de comédienne, Nicole?
Je sais pas, c'est un peu aveugle, une vocation, hein. C'est après qu'il faut analyser, c'est après qu'on le comprend mieux. Mais on parlait du regard tout à l'heure. Moi, je crois que c'est beaucoup ça, j'ai toujours aimé particulièrement le théâtre, en adorant jouer au cinéma, mais le théâtre, parce qu'il y a l'ombre des coulisses et on rentre dans la lumière. Rien que ce passage de l'ombre à la lumière est une chose très, très physique et très, qu'on ne retrouve ailleurs, qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Au fond, vous avez dû finir par le savoir, quel regard vous manquait, quelle lumière vous manquait.
Vous pensez que je vais aller jusque-là ce matin, lundi matin, au micro?
Vous me connaissez, 9h23, on y va, Nicole. Hein.
Quel regard, mais peut-être, sans accuser personne, ni personne dans son enfance, quelque chose qui, ou peut-être c'était mon exigence, hein, aussi, d'un regard vraiment qui soit porté, d'un regard, oui. Ce qu'on cherche, c'est une sorte d'amour inconditionnel qui vous soit promis et que peut-être je ne trouvais pas et que j'ai cherché par là. Et puis peut-être aussi quelque chose qui, dans mon enfance, c'est peut-être plus réel encore, c'était comme ça, une famille comme ça où on était, je me sentais très, très bâillonné. Et peut-être que la meilleure manière que j'ai trouvé de parler, c'était la seule manière que j'ai trouvé à ma disposition, c'était de commencer par dire des textes et de parler à travers eux. Et après, effectivement, devenant cinéaste, j'ai pu parler en mon nom propre.
Au fond, quand est-ce que vous vous sentez libre?
Quand je me sens libre, là, devant vous, peut-être? Non, devant votre regard bienveillant. Est-ce que je me sens libre? Non, mais très souvent, j'ai l'air d'être une pauvre prisonnière de... Non, mais je me sens libre dans mes désirs, dans mes pulsions, dans mon enthousiasme, dans mon énergie. Voilà. Et puis, comme pour tout le monde, ça rencontre un seuil, parfois, et puis, bien que je l'accepte, mais, et vous, vous sentez libre quand?
Pas souvent.
Pas souvent?
Ah non.
Non.
Ah, c'est toutes ces injonctions qu'on a développées là tout à l'heure.
Ah oui.
La culpabilité, tout ça.
Oui, mais on se fait un chemin à travers.
On se fait un chemin, bah ouais.
Mais je me suis sentie libre, par exemple, très libre. C'était une très belle expérience et c'est pour ça que j'espère que ce sera pareil à Paris, dans l'aventure de Royan à Avignon, où j'étais à la fois... face à ce texte qui me faisait peur, comme que j'avais reçu comme un brûlot, et grâce encore une fois au metteur en scène Frédéric Garcia, qui était un très bon guide puisqu'il avait monté la première pièce de Marine Diaye, il m'a guidé vers ce concret. Et maintenant, je dis pas que je me sens encore libre quand je rentre en scène, mais j'ai une fièvre et une ferveur, en tout cas, de faire advenir ce texte. Et là, c'est pas si ça s'appelle de la liberté, mais ça s'appelle, en tout cas, je sais pourquoi je suis là, quoi. Voilà, je sais pourquoi.
Moi aussi, je sais pourquoi vous êtes là ce matin. Moi, je vous écoute, là. On va reparler ensemble de liberté, mais aussi de corps, d'incarnation, d'intensité. Juste après John Baez, Diamonds and Rust, sur l'album du même nom. C'était en 1975. Vous êtes sur France Inter avec Nicole Garcia. Vous écoutez Boomerang. À lundi matin.
Straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. The girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air.
Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
Vous savez, ce qui frappe chez elle, c'est vraiment l'intensité, hein, de son regard, de son sourire, de ses gestes, de ses respirations, comme si elle ressentait tout plus fort, plus grand, plus vif. Elle a l'œil chat, imprévisible, la pommette éternelle, la blondeur Hollywood, une prestance de pitié tout en lunettes fumées et chaussures arrivées. La comédienne Nicole Garcia, invitée de Boomerang ce matin pour cette pièce que Marine Diaye, on le disait, a écrite pour vous. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est la manière dont vous occupez la scène, Nicole, votre façon de bouger, les gestes qui semblent constamment échapper à votre personnage tout en inquiétude. Trouver le corps d'un personnage, en l'occurrence cette professeure de français, ça passe par quoi ?
Trouver le corps, ça vient pour le meilleur, dans le meilleur des cas, ça vient en même temps que les pulsions que là où le texte vous mène, quoi. C'est quand ce sont des gestes qui vous sont tellement personnels, tellement à vous. Donc quand on arrive à les mêler à un texte qui vous échoit, bah ça veut dire qu'on est dedans, que ce soit, il y a quelqu'un, toujours, on a joué à Albi, qui me dit, mais vous êtes ému pendant le spectacle. Enfin, c'est quelqu'un qui a parlé de venir très souvent au théâtre, mais qui me dit, mais c'était très touchant sa question. Vous êtes ému? C'est vous qui êtes ému ou c'est le personnage qui est ému? Bah, il se posait la question de ça, mais, l'émotion qui vient, c'est la sienne, parce qu'on, c'est toute la question de l'acteur que vous posez là, mais.
Non, mais c'est passionnant. Qu'est-ce qui vous échappe, en fait, quand vous jouez? Il y a des choses qui vous échappent complètement.
Bah oui. Non, non seulement la chose, mais il y a des choses qui échappent. Il y a des choses, par exemple, dans cette que j'ai expérimenté peut-être pour la première fois dans ce très grand texte de contemporain de Marine Guy, non, qui est que quand l'émotion arrive, parce qu'elle arrive, étant donné comme décrit cette pièce, elle arrive pour cette professeure, pour cette qui a été dans le déni et puis qui est dans l'aveu, mais je sais jamais quand elle va surgir. Quoi. Elle surgit à un moment donné que je n'ai pas décidé, et donc à la fois ça m'échappe, c'est un peu vertigineux parce que je dis si, et j'ai toujours peur de ça. Et si elle vient pas, et quand elle arrive, je sais pas, voilà comme un geyser qui arrive un peu où il veut.
Quelle relation est-ce que vous entretenez avec les mots, vous, Nicole Garcia?
Les mots, cher ami, les mots écrits, les mots des livres, les mots...
C'est votre métier. Vous dites des mots.
Oui.
Vous utilisez des mots. Une relation très catholique, j'espère.
Oui, très catholique, bien sûr. Non, mais les mots, oui. Les mots, et je trouve qu'aussi en ce moment, dans cette période qu'on a vécue, les mots sont importants, mais la voix est importante. On a passé beaucoup de temps plus au téléphone avec ses proches pendant longtemps qu'en les voyant, et je trouve que la voix dit tellement de choses, plus encore que les mots qu'elle charrie. Dans plein de circonstances, les voix qui faiblissent tout d'un coup, des voix qui... On sent tant de choses au-delà des mots par la voix. Et...
C'est intéressant parce que vous parlez des voix des autres, là. Nicole Garcia. Les voix des autres, les mots des autres, qu'est-ce qui continue de vous apporter à vous, dans votre métier?
C'est-à-dire les mots...
Après tout, quelquefois ce sont vos propres mots, et quelquefois, comme c'est le cas ici avec cette pièce, ce sont les mots des autres, ce sont les mots de Marine Diaye en l'occurrence.
Oui, mais c'est l'autre, quoi. C'est tout l'autre. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui fait que... Voilà, je sors de la solitude qui est la mienne, je m'en nourris, je m'en repais, j'essaye de les rendre avec le plus de talent ou de sensibilité possible. C'est le rapport que j'ai à la fois avec l'auteur, avec le metteur en scène, et puis avec le public, quoi, qui vient écouter, et pour tout ça, c'est pour eux. Tout ça, c'est pour les toucher. Pour ça, c'est pour leur dire que je suis comme ça, vous êtes comme moi. Voilà, comme vous.
Et puis, c'est la possibilité, je suppose, de vivre d'autres vies aussi. Quand oui. On joue les mots des autres. D'autres oui. Vies que la sienne, non?
D'autres vies que la sienne. D'autres possibles. Hein.
C'est un texte qui répond en creux à cette question de la vie rêvée et de la vie vécue que vous avez choisi de nous lire ce matin, Nicole Garcia. Un texte extrait de La meilleure des vies d'Adam Phillips. On vous écoute.
Nous apprenons à vivre entre la vie que nous avons et celle que nous aimerions avoir. Ces doubles vies que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir. Il y aura toujours la vie que nous avons menée et la vie qui a accompagné la vie que nous avons menée. La vie parallèle ou les vies parallèles que nous avons vécues en imagination. Les risques qu'on n'a pas pris, les occasions qu'on a évitées, qu'on ne nous a pas fournies. Nous nous référons à elle comme à nos vies non vécues parce que nous croyons au fond qu'elle s'offrait bien à nous, mais que pour telle ou telle raison que nous pouvons passer notre vie vécue à essayer de centrer, elles avaient quelque chose d'impossible. Et ce qu'elles avaient d'impossible ne devient alors que trop facilement l'histoire de nos vies, l'histoire des vies que nous avons été empêchés de vivre.
Mais attendez, c'est passionnant, Nicole Garcia. Quelle vie est-ce que vous avez parfois le sentiment de ne pas avoir vécu, vous? À côté de quelle vie est-ce que vous êtes passé?
Ben, beaucoup, mais on se dit beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de possibles, mais et ça n'entraîne pas seulement, forcément, comme dit le texte, des regrets, mais on sait que j'aurais pu avoir une vie plus... J'aurais pu avoir une vie faite plus de contemplation, faite plus une vie amoureuse, consacrée à ça. Vous êtes content que je dise ça, non? Ouais.
Ah ben si, attendez, vous me connaissez. En plus, si vous parlez d'amour, voilà. Là c'est parti.
Mais ça aurait pu être d'autres chemins. Et puis, ce qu'on a dit sur le regard, le désir là, de se faire entendre, Voilà, il y a eu d'autres voies, mais il peut y avoir des choses qu'on a laissées en friche, en jachère, et on peut y penser parfois, souvent même.
Mais pour autant jouer, Nicole Garcia, c'est peut-être justement s'offrir la possibilité de les vivre, toutes ces vies parallèles, toutes ces vies rêvées, toutes ces vies non vécues, non?
Oui, c'est vrai, mais on n'est pas fou. On sait qu'on, bien sûr, on les vit, mais on sait qu'on les vit le temps de les partager, de les faire. Oui, mais enfin, ça fait partie de les jouer. Il a fallu toute cette énergie pour arriver à ça, pour être sur une scène, sur un écran, et donc on a laissé tomber les vies plus paresseuses, plus contemplatives, plus voilà, dédiées à l'amour qu'on aurait pu.
Ça veut dire qu'il reste rien du personnage en vous une fois que vous avez cessé de le jouer? Ou au contraire, est-ce qu'il continue de vous accompagner?
Toutes les vies en moi, c'est... Non, il continue. D'ailleurs, si on a pu jouer un rôle, si on a pu être à la hauteur, à la strate d'un rôle, c'est qu'il continue, il continue à être en vous. Il continue, je dis, bien sûr que les émois, les terreurs, la difficulté du personnage de Gabriel dans Royon, je la laisse à la fin du spectacle, mais je la retrouve tellement facilement le lendemain qu'elle est restée en moi, elle gise. C'est un gisement. Tous les personnages ont des gisements. Rendez compte, je suis le gisement de tellement de personnages, en fait, il faut les oublier, et on les oublie pas vraiment. Ils restent comme ça dans une sorte de galaxie, et je me souviens de certains très bien, un peu moins d'autres qui ont moins compté, je les porte en moi.
Merci pour ces gisements, Nicole Garcia. Merci d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Royan, la professeure de français de Marine Dia, est mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia, est au Théâtre de la Ville jusqu'au 3 février, et que c'est un monologue vertigineux, extrêmement beau, il faut le dire. Tout de suite, les médias, Sonia De Villard et son Instant M, juste après ça.
J'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches.
Juliette Armanet, Vertigo, il est 9h40 sur France Inter. Sonia De Villard, l'Instant M, ça va Sonia?
Ça va bien Augustin. Bon salut,
à demain. Lundi, à demain.